qui parlent de leur enfant à Jésus, parce que ça c'est une histoire très simple de l'évangile, et je trouve que c'est très encourageant de savoir ça, et cet enfant avait le privilège, comme Alexandre, d'avoir des parents qui connaissaient Jésus, connaissaient de loin peut-être Jésus, mais ils savaient que Jésus avait la puissance de pouvoir faire quelque chose pour leur enfant. Est-ce que vous croyez ce matin que Jésus a la puissance de faire quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous croyez que Jésus peut intervenir dans les difficultés, dans les situations les plus impossibles de votre vie? Est-ce que vous croyez que Jésus est celui qui peut répondre aux questions, aux interrogations que vous avez? Alors si c'est le cas, si vous croyez ce matin, eh bien, je vous engage à venir à Jésus et à lui dire « Voilà ma situation, voilà les problèmes que je traverse, voilà les difficultés dans ma vie, voilà les questions que je me pose. Je voudrais que tu interviennes. Je ne veux pas que ma vie soit la répétition d'un échec. Je ne veux pas que ma vie soit simplement une continuité de jours identiques qui se suivent. Mais je veux qu'il y ait un commencement dans ma vie. » C'est ce qu'Alexandre a dit tout à l'heure. Et quand il est venu nous voir la semaine dernière, il a dit, je voudrais, en quelque sorte, si je traduis, je voudrais marquer le coup, je veux marquer un départ. Et ça nous a parlé parce que c'est un enfant qui le dit. Et combien il est important que les adultes aussi puissent dire aujourd'hui, je veux rencontrer Jésus. Je veux que Jésus fasse quelque chose dans ma vie. Je veux que Jésus fasse quelque chose dans ma situation. Et le passage de référence, c'est dans Marc chapitre 5. Et vous connaissez bien l'histoire, vous n'êtes pas obligé de tourner, vous l'avez aussi dans l'évangile de Luc. Mais c'est ici, à partir du verset 21 de Marc chapitre 5, l'évangile. Il faut lire l'évangile, c'est tellement beau et c'est tellement touchant, n'est-ce pas, de voir comment Jésus agissait avec les gens. Et là donc, il est question d'un homme qui est le chef de la synagogue. C'était donc un homme qui craignait Dieu en toute évidence, qui avait la crainte de Dieu, et probablement lui et sa femme croyaient en Dieu et voulaient faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais voilà que leur fille est à l'extrémité, et j'aime bien ce terme. On apprend que cette jeune fille avait 12 ans. Et il dit au verset 23, il dit à Jésus, « Ma petite fille est à l'extrémité. » C'est touchant pour Jésus d'entendre un père qui dit, « Ma fille est à l'extrémité. » Mais combien de gens ici savent très bien que peut-être leur enfant est à l'extrémité. Peut-être quelqu'un de très proche est à l'extrémité. Ça veut dire que, ici, dans le cas de l'enfant de Jaïrus, la fille était en train de mourir. Elle était malade et elle était en train de mourir. Et il est venu vers Jésus en disant, « Ma fille est à l'extrémité. » Et ce matin, combien j'aimerais qu'on puisse venir à Jésus, n'est-ce pas, et lui dire « Je suis à l'extrémité. Je ne peux pas aller plus loin, car souvent, vous savez que Dieu attend que les gens soient à l'extrémité de leur vie. C'est-à-dire qu'ils soient conscients que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'en sortir. Qu'ils ne peuvent pas être aidés, qu'ils ne peuvent pas être secourus, qu'il n'y a pas de secours en dehors de Jésus-Christ. » Et donc cet homme le savait très bien. J'imagine que sa femme lui a dit, « Va voir Jésus, moi je reste avec la petite fille. Je vais veiller sur elle. » Mais il avait besoin de dire à Jésus, « Ma fille est à l'extrémité. » Si vous lisez le contexte, eh bien vous voyez que Jésus s'est mis en marche. Mais il y avait tellement de gens autour de Jésus qui cherchaient des miracles aussi. Et Jésus aurait pu dire, mais vous êtes égoïste, il y a une petite fille qui est en train de mourir, je suis sur le chemin pour aller la guérir. et vous êtes en train de me parler de vos problèmes, vous voulez me toucher, etc. Mais Jésus n'était pas comme ça. Il y avait dans cette foule, à ce moment-là, une femme qui, depuis 12 ans, elle aussi 12 ans, depuis 12 ans, eh bien, avait des pertes de sang. Et elle voulait toucher le manteau de Jésus, le vêtement de Jésus, pour être guérie. C'est ce qu'elle a fait, et elle a été guérie. Parce qu'elle savait, elle aussi, comme les parents de cet enfant, comme Jaïrus et sa femme, et savait très bien que Jésus pouvait répondre. Et Jésus répond aux besoins des vies. Cette femme qui l'a touchée alors qu'il se rendait chez Jaïrus, eh bien, c'était une femme qui savait que c'était l'occasion, ce jour-là, de rencontrer Jésus. Et c'est pas seulement qu'elle a été guérie d'une maladie que les médecins ne pouvaient pas guérir. C'est qu'elle a été libérée de ce qu'elle était fondamentalement. Elle a été libérée d'elle-même. Elle a pu commencer, j'imagine, à louer le Seigneur et à dire, voilà, j'ai rencontré Jésus ce matin ou cet après-midi. Je l'ai rencontré. Je sais qu'il est puissant. Je sais que ce qu'on dit de lui, c'est la vérité. Est-ce que vous pouvez vous lever? Ne le faites pas, bien sûr, maintenant. Et vous pouvez dire, je sais qui est Jésus-Christ. Je sais que ce qu'on dit de lui, ce que je lis dans l'Évangile, c'est la réalité parce que je l'ai vécu. Et je peux vous dire à n'importe quel moment ce que Dieu a fait pour moi. Mais Jésus est devenu un personnage religieux. C'est normal d'une certaine façon que la société rejette les chrétiens. C'est normal parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'on ne connaît pas Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas assez manifesté, n'est-ce pas? Il n'y a pas assez de gens qui ont une vie transformée comme cette femme qui a touché le bord de son vêtement, qui était transformée. Les gens avaient simplement besoin d'entendre, de dire qu'elle avait rencontré Jésus et ils comprenaient qui était Jésus. Et donc, comme cette femme, il y a possibilité ce matin même, ici ce matin, de rencontrer Jésus. Alors, comment faire? Eh bien, faire comme cette femme, comme Jaïrus aussi, c'est d'aller vers Jésus. Et ici, bien sûr, ce n'est pas un personnage physique, mais c'est dans la prière, c'est à l'intérieur de soi, c'est de dire, Seigneur, ce matin, je viens à toi. Je ne sais pas qui tu es. Cette femme qui avait ses pertes de sang depuis 12 ans ne savait probablement pas bien qui était Jésus. Elle savait après, mieux que beaucoup d'autres, même mieux que les disciples, qui était Jésus. Parce qu'elle a vu la puissance de Dieu agir dans sa vie. Peut-être vous avez des pertes de sang, pas physiques, mais vous avez l'impression que votre vie se perd, que vous êtes en train de perdre tout ce qui vous a été donné, ce qui est vital pour vous. Depuis des années, et voulait que ça change, eh bien Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la réponse. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas cette Église qui peut répondre. C'est Jésus-Christ qui peut répondre à vos besoins. Et ensuite, retardé, il est arrivé chez Jaïrus. Il n'était pas stressé, Jésus. Il n'était pas en train de dire « Ah, je dois être en retard ». J'ai été ralenti, je suis désolé, j'ai été ralenti. On n'est plus dans cette dimension-là, n'est-ce pas? Il voit les gens qui disent à Jaïrus, mais n'embête pas le maître Jésus-Christ, ne l'embête plus, ta fille est morte, c'est trop tard. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, c'est trop tard. Il y a des gens qui ont tellement péché dans leur vie que tout est écrit sur leur corps. Trop tard, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Tant que vous êtes en vie, il y a l'occasion de vous donner à Jésus-Christ. Et si vous êtes à l'extrémité dans votre vie de péché, eh bien Jésus-Christ n'a pas peur, n'est pas impressionné par ça. Ce n'est pas plus difficile pour lui de sauver quelqu'un qui est à l'extrémité que de sauver quelqu'un qui est pas trop mal. Je crois même qu'il a plus de facilité à sauver ceux qui sont à l'extrémité, parce qu'eux au moins savent qu'ils sont à l'extrémité. Et donc il est rentré, il n'a pas écouté ceux qui ont dit « c'est trop tard ». Il n'a pas écouté les pleureuses qui étaient là, vous savez, c'était, je pense, probablement des femmes qu'on payait, je ne sais pas trop comment ça marchait, mais qui venaient ou qui spontanément venaient pour faire du bruit en pleurant, n'est-ce pas? Ça n'aide pas beaucoup la famille, à mon avis, mais bon, ça c'est mon avis. Et il ne les a pas écoutés. Il a dit « cet enfant dort ». Alors on s'est moqué de lui. Mais il savait ce qu'il allait faire, et il sait ce qu'il va faire avec vous ce matin. Si vous acceptez de venir à Jésus, si vous acceptez de donner votre vie à Jésus ce matin, si vous acceptez de répondre comme a fait Alexandre tout à l'heure, de dire « voilà, moi je veux suivre Jésus. Voilà, avec mon degré de compréhension, je veux toucher le bord du vêtement de Jésus. » Eh bien, ce matin, Jésus va faire, il sait ce qu'il va faire, il va vous donner la résurrection et la vie. Dans votre vie morte, dans votre situation où il n'y avait plus d'espoir, eh bien, il va donner la vie éternelle. Et quand vous le vivez, vous savez que vous avez rencontré Jésus-Christ. Il y a quelque chose que j'ai expérimenté moi-même il y a des années. Et avant, je disais toujours, je ne sais pas. Je suis croyant, mais je ne sais pas. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ personnellement, il y a une parole que je pouvais dire, c'est « je sais que je l'ai rencontré ». Je sais que j'ai rencontré Jésus, qu'il a fait quelque chose dans ma vie. Je sais aussi qu'il doit faire encore des choses dans ma vie. Mais je sais qu'il l'a déjà fait et qu'il a fait son œuvre et je veux venir à lui aussi pour moi ce matin et lui demander d'agir. Parce que c'est là où l'Esprit de Dieu a la liberté, n'est-ce pas, quand les gens viennent à Jésus-Christ. Et j'aimerais, comme on a parlé d'une petite fille qui est ressuscitée d'entre les morts, parce que Jésus est allé vers cette fille, il a pris la main de cette fille et lui a dit « Talita Kumi », qui veut dire « jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Oh, c'est une parole qu'il dit ce matin à ceux qui viennent, à celles qui viennent, aux jeunes filles qui viennent à Jésus-Christ. Il dit « jeune fille, lève-toi ». Mais vous allez peut-être dire « je ne peux pas, c'est pas possible ». Peut-être que la famille est venue dire à Jésus, mais enfin, ils n'ont pas entendu parce qu'en fait, Jésus est rentré seul dans la pièce avec trois de ses disciples. Mais peut-être que les gens dehors auraient dit « mais tu ne peux pas lui dire ça, elle est morte, tu n'as rien compris ». Mais il savait qu'il avait la puissance de résurrection, parce qu'il était lui-même la résurrection et la vie, n'est-ce pas? Et ce matin, il veut dire « jeune fille, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Homme, femme, je te le dis, lève-toi. Et de cette situation de mort dans laquelle tu te trouves, eh bien, tu peux trouver la vie. » Et cette jeune fille était connue de Jésus. Jésus était, se souvenait d'elle. Si on lui parlait quelque temps après, tu te souviens de la fille de Jaïrus? Ah, cette bonne petite fille, je l'ai rencontrée. Et elle m'a rencontrée. Cette jeune fille était connue maintenant de Jésus-Christ. Elle avait reçu la vie. Et elle, toute sa vie, elle était marquée par cette rencontre avec Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous parler d'un petit garçon maintenant, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait un roi. Alors là, c'est une longue histoire. Si vous la lisez, ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 11 et autour du chapitre 11. Et ça se trouve aussi dans 2 Chroniques autour du chapitre 23. Il s'agit d'un petit garçon qui s'appelait Joas. Joas. Eh bien, ce garçon, il était destiné à la misère à cause de son héritage, à cause de ses parents, à cause de ce qu'il a connu. Voyez que l'enfant de Jaïrus, elle avait un privilège que beaucoup d'autres enfants n'avaient pas. C'est que ses parents aimaient Jésus, connaissaient Jésus, et ils aimaient Jésus, ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose. Mais Joas n'avait rien de tout ça. Premièrement parce qu'il était dans l'Ancien Testament, et Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Mais aussi parce qu'il n'a pas choisi là où il est né. Vous n'avez pas choisi là où vous êtes né. Personne ici n'a choisi son identité de départ. Et Dieu le sait. Mais Dieu est puissant pour faire en sorte que ceux que vous avez hérité, que l'origine que vous, qui influence votre vie et qui décide un peu de votre destinée, puisse changer. Et c'est ce qui s'est passé avec Joas. Je vais raconter son histoire. Il est né d'un père qui s'appelait Akazia. Et ce roi Akazia était lié à la famille d'Akab. Akab est vraiment un roi qui a régné sur Israël et qui était un mauvais roi, un roi qui a incarné le mal. Avec sa femme Jézabel, ils ont fait ce qui était mal et qui déplaisait aux yeux de Dieu. Et vous remarquerez, mais c'est un peu de l'histoire, c'est un peu compliqué, que Akab était roi d'Israël, mais Akazia, qui était de la même famille, il était roi de Juda, qui était l'autre partie du royaume d'Israël. Et cet Akazia était mauvais. Cet Akazia a fait ce qui était mal, parce que sa mère s'appelait Athalie. Et il nous est dit que sa mère, qui était d'ailleurs de la même famille d'Akab, eh bien, était une femme qui faisait des choses affreuses, qui faisait des choses terribles. Et lorsque Akazia est mort, eh bien, normalement, c'est son fils qui devait succéder, un de ses fils. Et Athalie, la grand-mère, eh bien, voulait régner, elle. Elle voulait régner sur Juda. Et donc, elle a mis à mort les enfants d'Akazia. Elle a décidé de faire mourir ses petits-enfants. Voilà une démonstration, n'est-ce pas, de quelqu'un d'abominable. Et voilà que parmi les enfants d'Akazia, il y a un petit bébé qui s'appelle Joas, qui est né. Il n'a pas choisi où il est né. S'il avait pu choisir avant, il aurait choisi autre part. Il aurait préféré ne pas être prince, sachant qu'il est destiné à la mort. Et elle a cherché cette femme, Athalie, ou peut-être elle ne savait même pas qu'il était né. En bonne grand-mère qu'elle était, elle ne savait peut-être pas qu'il était né. Mais il y avait quelqu'un dans l'entourage de Joas qui était extraordinaire, qui était de la même famille que Akazia. Il nous est dit que c'était une sœur d'Akazia. Elle s'appelait Yehosheba. S'il y a plusieurs versions, ça se prononce différemment, mais ce n'est pas trop grave. Ou Yehoshebat. Eh bien, cette femme, elle était de la même famille, mais elle était transformée. C'est évident qu'elle était transformée. C'est évident. Pourtant, elle avait le même héritage. C'était une sœur d'Akazia, donc elle aurait dû se comporter comme Akazia, qui était un mauvais roi. Elle était aussi avec les liens qui la liaient avec Akab. Mais cette femme était transformée. Pourquoi elle était transformée? Eh bien, la Bible nous dit qu'elle était mariée avec le sacrificateur Jehojada. C'était le sacrificateur de Dieu à cette époque-là. C'était un homme saint. C'était un homme qui craignait Dieu. Et vous savez que Jehojada veut dire Dieu connaît. Dieu connaît. Connu de Dieu. Cet homme était connu de Dieu. Parce que son cœur était vraiment dévoué au service de Dieu, au service de la maison de Dieu. Vous savez, je fais une parenthèse très importante. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit que des gens viendront vers lui en disant « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Seigneur, je vais actualiser. Seigneur, Seigneur, nous avons fait partie d'une église évangélique. Nous avons fait de l'évangélisation dans la rue. Seigneur, Seigneur, souviens-toi de nous. » Jésus leur a dit, « Je ne vous connais pas. vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas votre appartenance à une église. Ce n'est pas votre curriculum vitae spirituel qui va convaincre Dieu que vous êtes prêt à rentrer dans son royaume. C'est ce que Jésus vous connaît. Et ce que vous pouvez dire comme la fille de Jaïrus pouvait dire, Jésus me connaît et je connais Jésus. Et ce que vous pouvez dire comme Jéhojada qui veut dire Dieu connaît, oui, Dieu me connaît et je le connais, je le sers, je ne commets pas l'iniquité, je ne marche pas dans l'iniquité. Eh bien, cet homme avait donc pour épouse Jéhoshébat, qui est devenue sainte parce qu'elle s'est mariée avec cet homme. Et on a là une image, n'est-ce pas, de ce qu'enseigne le Nouveau Testament aussi, où il nous est demandé, où il nous est exhorté, où nous sommes invités à rencontrer Jésus-Christ et à faire cette alliance qui est aussi, qui est symbolisée par le mariage, bien qu'il ne s'agisse pas d'un mariage à proprement parler, mais cette union avec Jésus-Christ qui fait lui qui est appelé le souverain sacrificateur dans le Nouveau Testament, qui fait que notre vie est transformée et que nous sommes coupés de notre héritage, de l'influence que nos parents ont eue, que l'influence que notre religion a eue de naissance, l'influence que notre société a eue, que les circonstances de notre vie ont eue. Comment voulez-vous qu'un enfant, comme il y en a à Hasbrouck même, qui est abandonné dès un très jeune âge où on le dit le matin, tu sors de l'appartement, tu es casse-pied, tu fais trop de bruit, tu reviendras pour manger et encore. Vous allez dans certains quartiers, vous voyez des enfants le soir à 10 heures, des tout petits. Comment voulez-vous qu'ils deviennent? Pensez-vous qu'ils vont être très sages à l'école et qu'ils vont venir directeurs de banque? Ils deviendront des malfaiteurs, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que l'héritage et les circonstances de ce qu'ils ont vécu font qu'ils ne peuvent pas facilement devenir autre chose que cela. Et Dieu le sait. C'est pas ce que vous êtes par votre héritage, que vous soyez des gens honnêtes, distingués, distinguables, ou que vous soyez des malfaiteurs. Jésus-Christ veut vous donner une nouvelle identité. Il veut que vous puissiez rencontrer Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, comme Jéhoshébat a rencontré son mari, Jéhoïada. Elle a rencontré l'influence que son héritage familial pouvait avoir sur elle, l'influence de ce qu'elle avait connu, eh bien, a changé. Et maintenant, elle était sous l'influence de son mari, qui était un homme saint. De même que vous pouvez être sous l'influence de Jésus-Christ, de l'Esprit de Dieu, qui vous transforme, n'est-ce pas, profondément, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre passé, quelles que soient les circonstances que vous avez connues. C'est ça l'Évangile. L'Évangile n'est rien d'autre. L'Évangile n'est pas un texte écrit seulement. Ça n'est pas une histoire qu'on raconte au catéchisme. C'est une puissance. L'apôtre Paul a dit que je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ça l'Évangile. L'Évangile n'est pas un texte qu'on donne à des gens. L'Évangile est une puissance qui libère. L'Évangile est une puissance qui délivre. L'Évangile est une puissance qui dit « Talita kumi, lève-toi, je te le dis. » Cette femme a été transformée, non pas par l'Évangile, parce que l'Évangile n'avait pas encore été proclamé puisque Jésus n'était pas encore venu, mais elle a été sauvée par ce sacrificateur qui lui a montré l'exemple, qui est devenu en quelque sorte son sauveur. Parce qu'il était connu de Dieu, Dieu connaît, et parce qu'il connaissait Dieu. Alors cette femme, Jéhoshébat, Elle est allée prendre ce bébé. Il devait avoir un an, si je compte bien. Elle est allée le prendre et elle est allée le cacher de Atali, parce que Atali avait déterminé et avait commencé à exécuter tous les enfants d'Akasia. Elle est allée le cacher, vous lirez dans les textes. Elle l'a caché dans la maison de Dieu pendant 6 ans. Très astucieux. Étant donné le cœur de Atali, il y avait une chose que cette femme pouvait savoir, c'est que Atali n'était pas le genre à aller dans la maison de Dieu. Parce que Atali savait dans son cœur que si elle s'approchait trop près de Dieu, eh bien elle risquait à mourir elle-même. Elle savait qu'elle était indigne, qu'elle était si loin de Dieu, et c'était le meilleur endroit où cacher le petit Joas. Donc elle l'a caché pendant 6 ans dans la maison de Dieu. Et il y a des parents qui ont fait ça avec leur enfant, n'est-ce pas ? Qui ont essayé de le mettre dans la maison de Dieu très jeune. Mais il y a toujours l'héritage qui pouvait jouer, n'est-ce pas ? Qui pouvait influencer la vie. Et Joas est devenu roi à 7 ans, donc 6 ans caché dans la maison de Dieu. Ensuite, il a été proclamé roi. Il avait 7 ans. Mais il était sous l'influence de ce sacrificateur, qui était au fond, même si ce n'est pas dit, souverain sacrificateur, certainement, parce que c'est lui qui prenait les décisions religieuses. Et donc, il a été sous la bonne influence de Jéhojada. Et c'est ça qui a permis à ce roi de faire ce qui est normal de faire quand on est touché par la grâce de Dieu. Une des premières actions qu'il a commencé à faire, c'est de débarrasser la maison de Dieu et débarrasser le peuple de Juda des Baals, des idoles. C'est une des premières œuvres que Dieu veut faire dans votre vie. Le souverain sacrificateur Jésus-Christ, vous lirez ça, qu'il est souverain sacrificateur dans l'Épître aux Hébreux. Eh bien, ce souverain sacrificateur qui est venu non pas avec un sang étranger, non pas avec le sang d'un animal comme dans l'Ancien Testament, mais qui est venu avec son propre sang, avec sa propre mort sur la croix. Eh bien, ce souverain sacrificateur, quand il influence votre vie, il vous coupe de l'héritage que vous avez reçu. Il vous coupe même des souffrances que vous avez pu connaître dans votre enfance. Il vous coupe des liens qui vous retiennent. Et il vous demande une chose, c'est de débarrasser votre vie des idoles. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et avoir des choses que vous vénérez dans votre vie, des idoles, des objets, mais aussi des choses qui sont plus subtil que des statues ou des idoles qui ont fait tomber Israël dans tout l'Ancien Testament. Vous avez des choses dans votre vie qui prennent la place de Dieu, des choses qui, au fond, demandent ce que Dieu seul a le droit de demander. Eh bien, il faut balayer ça de votre vie. Et c'est ce que Joas a commencé à faire. Il a débarrassé le peuple et la maison de Dieu des idoles. Il a commencé aussi, il nous est dit, vous lirez ça dans 2 Rois et vous lirez ça aussi dans 2 Chroniques. Eh bien, il a commencé aussi à réparer la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul est très clair, et le Nouveau Testament à plusieurs reprises est très clair là-dessus. C'est que les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, deviennent la maison de Dieu parce que Dieu vient habiter dans leur vie. Il vient remplir leur vie. Et Dieu n'habite pas dans un bâtiment. Ce bâtiment, lorsqu'il n'y a plus de chrétiens, lorsqu'il n'y a plus de gens qui sont remplis de l'Esprit, c'est un bâtiment qui n'est rien d'autre qu'un bâtiment. Ce n'est pas un édifice qui est la maison de Dieu maintenant. C'est les hommes et les femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui deviennent les édifices, la maison de Dieu. Est-ce que ce matin, vous voulez dire, moi je veux être la maison de Dieu. Je veux que ma vie, que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Que Dieu puisse venir habiter en moi et faire son œuvre. Je veux réparer, je veux restaurer le temple de Dieu. et il a fait la réparation, comme c'était en l'Ancien Testament, c'était un temple physique. Il a commencé à faire la réparation. Mais je voudrais donner un avertissement très sérieux à chacun d'entre nous, à moi premièrement, et à vous aussi. C'est que Joas a été sous l'influence de Jéhojada pendant toute la vie de Jéhojada. Mais Jéhojada est mort tardivement, il est mort âgé. Et lorsqu'il est mort, Joas s'est détourné. Lorsqu'il est mort, Joas a écouté d'autres voix, d'autres influences que celles que lui avait laissées Jéhojada. Et c'est un avertissement pour nous qui nous engageons avec Jésus-Christ, de marcher avec Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu et la vie de l'Esprit de Dieu, la bénédiction n'est possible que lorsque l'on marche avec lui. Que lorsque Jésus nous a dit un jour, Talita Kumi, ou je ne sais pas l'équivalent en araméen, pour jeune homme, lève-toi, ou homme, lève-toi, femme, lève-toi. Mais un jour, on s'est levé, on a marché avec lui. Mais il faut marcher tout le long. Il faut marcher toute la vie avec lui. Et Joas est tombé de très haut. Il a eu les avertissements d'un certain Zacharie. Il ne s'agit pas du prophète Zacharie dont on a, pour lequel on a un livre qui est dans la fin de l'Ancien Testament. Mais il s'agissait d'un fils de Jéhojada, élevé par Yochebéath et Jéhojada. Zacharie est devenu un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Et Zacharie est allé vers Joas et il a prévenu, il a dit « Attention, vous éloignez, tu as éloigné le peuple d'Israël de Dieu, tu as éloigné le peuple de Juda de Dieu. Il faut revenir à Dieu. » Et Joas a dit, je ne supporte pas ces paroles, tuez-le. Et il a tué Zacharie. Il a tué, on voit un peu plus bas, les autres fils de Jéhojada. Avec qui il avait grandi? C'est Jéhojada et Yochebéath qui avaient élevé cet enfant Joas. Mais il les a massacrés. Il a fait ce que sa grand-mère Athalie avait fait. Parce qu'il s'est détourné de Dieu. Parce qu'il s'est détourné de l'enseignement qu'il avait reçu. Il a retrouvé ses liens familiaux et les problèmes de sa famille. Et ce que Athalie a fait, il l'a fait lui-même. Vous savez que Jésus connaissait Zacharie. Ils ne sont pas rencontrés parce que Zacharie est mort là, à ce moment-là, Jésus est venu bien longtemps après. Mais Jésus a mentionné la mort de Zacharie. Il a dit que Jérusalem devait rendre compte du sang qu'elle avait versé, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie tué dans le temple. Parce qu'en plus, il avait été tué dans le temple. L'avantage que nous avons, c'est que notre souverain sacrificateur ne meurt pas. Il est éternel, c'est Jésus-Christ ce matin. Mais que nous restions fidèles, que toi, Alexandre, tu restes fidèle toute ta vie. Il faut rester fidèle à celui qui nous a sauvés de la mort. Parce que c'est Jéhojada qui avait sauvé Joas de la mort. C'est lui qui lui avait dit, lève-toi et marche, je vais faire de toi un roi. Et ce souverain sacrificateur restera en vie pour veiller à ce que vous puissiez toujours marcher selon ses voies. Mais restez fidèle à lui. C'est ça, la parole de Dieu. C'est pas seulement de répondre et se lever et marcher, mais c'est aussi de marcher continuellement, jour après jour. Et les temps sont difficiles. Les circonstances de la vie sont peut-être difficiles. Mais ce matin, est-ce que vous voulez, pour la première fois, venir à Jésus-Christ et dire, Seigneur, je viens à toi, je suis à l'extrémité. Je me lève sur ta parole, je veux venir à toi. Ou peut-être ce matin, vous êtes déjà levé plusieurs fois et vous voulez juste dire, Seigneur, moi je veux marcher avec toi. J'ai boité, mais je veux marcher avec toi. L'essentiel, c'est que vous répondiez à Jésus, que vous puissiez donner votre vie ce matin et marcher avec Dieu. Si Dieu vous a parlé sous le baptême, il y a deux personnes maintenant qui ont demandé le baptême dans un avenir proche. Eh bien, si Dieu vous parle là-dessus, le baptême est une marque d'obéissance. C'est pour ça qu'il doit y avoir la compréhension exacte de ce que ça représente. Eh bien, si Dieu vous parle là-dessus ce matin, répondez. La fille de Jaïrus a répondu. Elle n'a pas dit non, je reste morte. Ou bien, il m'a ressuscité, mais je reste allongée. Elle s'est levée, elle a marché. Joas, il a grandi dans la maison de Dieu. Il a aimé ce souverain sacrificateur et sa femme. C'était son sauveur, ce sacrificateur. Mais il a agi pendant une grande partie de sa vie, fidèlement à ce que Dieu avait. Mais ce matin, est-ce que vous voulez marcher avec Dieu? Est-ce que vous voulez le servir? Eh bien, répondez à ce que Dieu demande de vous. Alors, je ne sais pas si, Alex, tu permets que peut-être on fasse un moment d'appel ou c'est prévu. Alors, je te laisse la parole. Alors.